l'écoute de RFI.
Orion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Vêtue d'un tchador noir lors de son passage au sommet mondial des femmes à Paris, la vice-présidente de la République islamique d'Iran est malgré tout une féministe. Shahindokht Mollaverdi s'est toujours battue pour la promotion des droits des femmes. Chargée justement des affaires des femmes et de la famille depuis octobre 2013 au sein du gouvernement iranien, elle surprend par un discours prônant davantage d'ouverture dans la société aux antipodes du rigorisme des années Ahmadinejad. Ariane Gafuri l'a rencontrée pour Orient Hebdo. Il est toujours aussi difficile d'être homosexuel dans les pays arabes. Des peines de prison ont été prononcées ces derniers jours à l'encontre de plusieurs d'entre eux en Tunisie et au Maroc. Et les révolutions de 2011 n'y ont rien changé, comme nous le montre un reportage réalisé par François Hume en Égypte. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
La 24e édition du Global Summit of Women, en français le sommet mondial des femmes, s'est tenue cette année à Paris début juin. Pour la première fois, une délégation iranienne a participé, et pas des moindres, la vice-présidente de la République islamique d'Iran, en charge de la question des femmes et de la famille, Shahindokht Mollaverdi, était présente. Ariane Gafuri, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous avez rencontré Shahindokht Mollaverdi.
Oui, tout à fait, Eric. Cette femme, la quarantaine, grande et de belle prestance, sous son hijab noir, parle très volontiers des femmes de son pays. Elle évoque la politique du nouveau président iranien Hassan Rouhani envers les femmes.
Un président élu il y a tout juste un an et que l'on dit modéré. Il a formé un gouvernement dans lequel figurent trois femmes. Trois femmes pour 18 hommes, on est tout de même très loin de la parité.
C'est vrai, mais trois femmes au gouvernement, c'est une avancée dans ce pays. Seul l'ancien président, Mohamed Khatami, avait nommé une femme au poste de vice-présidente. On écoute Shahindokht Mollaverdi, elle s'exprime en persan.
Les femmes iraniennes ont connu des avancées énormes. Mais pour que l'on puisse concrétiser les idéaux de la République islamique, il est indispensable qu'il y ait encore plus de développement. À l'heure actuelle, le pourcentage des femmes actives n'est que de 12 à 15%. À cause de la crise économique internationale et des sanctions internationales envers l'Iran, on a constaté un recul général qui a même frappé les hommes. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a un fossé entre le taux d'activité des hommes et celui des femmes. Pourtant, 70% des femmes sortent diplômées des universités. Et quand elles se tournent vers le marché du travail à la recherche d'un emploi, c'est à ce moment-là que le fossé entre les hommes et les femmes se fait le plus sentir. Elles ont donc besoin que le marché du travail les accueille davantage.
La place des femmes dans l'économie de l'Iran est d'autant plus importante que le pays veut créer 8,5 millions d'emplois d'ici 2016. C'est ce que confirme Shahindokht Mollaverdi.
L'équité entre hommes et femmes est l'un des aspects les plus importants de la justice sociale et nous voulons faire en sorte que le potentiel des personnes et leurs mérites soient mieux pris en compte. Le développement économique est une des priorités du gouvernement iranien. Et nous sommes convaincus qu'il ne peut pas y avoir de développement sans la contribution des femmes qui représentent la moitié de la main-d'œuvre du pays. Par conséquent, nous comptons faire tout notre possible pour que les femmes soient partie prenante dans le développement économique du pays.
Une volonté, Ariane, qui rompt avec celle des précédents gouvernements, 35 ans après la prise du pouvoir par les mollahs, où les femmes ont été reléguées au second plan, contraintes de porter le voile islamique, privées d'accès à certains métiers, interdites de voyager à l'étranger, sans autorisation de leur père ou de leur mari.
Hassan Rouhani s'est en effet engagé à donner davantage de libertés individuelles. L'ex-négociateur de l'épineux dossier nucléaire a nommé des femmes gouverneurs de province. Il a aboli l'interdiction interdit émis sous Ahmadinejad d'étudier certaines matières liées à l'ingénierie et à l'archéologie. Il a également suspendu l'unité de moralité, la Gasht Ershad, police spéciale mise en place en 2005 pour faire respecter le code vestimentaire obligatoire pour les femmes. Mais il reste des cicatrices dont Shahindor Molaverdi a bien conscience.
Même s'il y a des avancées, les femmes ont encore trop tendance à penser qu'elles ne sont pas capables. Pour que nous soyons en mesure de réaliser nos objectifs en faveur des femmes, nous avons besoin de confiance, et à deux niveaux. D'abord, la confiance des femmes en elles-mêmes, en leur propre potentiel, et aussi la confiance de l'ensemble des hommes politiques et de l'opinion publique, pour que, quand les femmes accèdent à des fonctions à haute responsabilité, il n'y ait pas de crainte qu'elles ne puissent pas mener à bien leur mission. Il faut qu'on donne la possibilité aux femmes de faire des expériences et de prendre des risques.
Et Eric, c'est pour bénéficier de l'expérience d'autres femmes que la délégation iranienne s'est rendue au sommet mondial des femmes. Il y avait 1300 femmes venues de 80 pays.
L'occasion aussi, j'imagine, de faire parler des femmes iraniennes qui ont une image plutôt négative pour les Occidentaux.
À tort, selon la vice-présidente iranienne chargée des femmes.
À mon grand regret, les pays occidentaux ont une idée préconçue concernant les femmes iraniennes. Mais il suffit de passer ne serait-ce que 48 heures en Iran pour se rendre compte combien on se trompe. Cela dit, nous sommes aussi responsables de ces préjugés parce que nous n'avons pas été capables de montrer la véritable image de la femme iranienne. Ou plutôt, nous nous sommes contentés de ne mettre en avant qu'un seul rôle. La femme est sur tous les fronts. Épouse, mère de famille, femme active et capable d'assumer toutes ses responsabilités.
Et Shahindor Molaverdi sait de quoi elle parle. Elle est mariée, mère de deux enfants et femme politique. Je lui ai demandé de me raconter son parcours professionnel.
Je suis moi-même juriste. J'ai fait des études de droit international et la thèse que j'ai préparée concernait justement la question de la violence à l'égard des femmes. Pendant la période de réforme en Iran, j'étais la directrice internationale du secrétariat des relations des femmes avant de devenir vice-présidente en charge du droit des femmes et de la famille. Entre-temps, j'ai eu l'occasion de publier 4 ouvrages et plus de 100 articles sur les droits des femmes et particulièrement de la violence faite aux femmes. Je suis connue comme étant une militante des droits de la femme au niveau des ONG en Iran et dans mes dernières fonctions, j'étais en charge de l'office notarial.
Pour être arrivée là où vous êtes aujourd'hui, qui est un parcours assez exceptionnel, est-ce que vous avez eu beaucoup d'obstacles à surmonter ?
Le problème, ce n'est pas la loi islamique, ce sont les obstacles que je qualifierais de culturels. Les difficultés ne viennent pas uniquement des hommes, elles viennent aussi des femmes. Le regard des femmes peut être un frein à l'avancement des autres femmes. Et plus on gravit les échelons, plus ces obstacles augmentent. En persan, on appelle cela le plafond de verre.
Le plafond de verre, un obstacle auquel beaucoup de femmes sont confrontées à travers le monde. Merci Ariane Gafuri pour ce portrait de Shahindor Molaverdi, vice-présidente en charge de la femme en Iran. L'homosexualité est toujours aussi mal perçue dans les pays arabes. Ainsi, au Maroc, la cour d'appel de Beni Mellal a confirmé, voici quelques jours, la loi criminalisant les actes homosexuels en prononçant des verdicts de culpabilité et des peines de prison à l'encontre de 6 hommes. En Égypte, le printemps arabe de 2011 n'a pas plus amélioré les conditions de vie des homosexuels. L'espoir minime levé par la révolution s'est vite dissipé. La répression a repris son cours, rappelant la terrible époque du début des années 2000 où des dizaines d'homosexuels ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Le harcèlement contre les gays est utilisé pour manipuler l'opinion publique dans une société qui refuse encore majoritairement l'expression d'une sexualité différente. Écoutons le reportage en Égypte de François Hulme.
Aujourd'hui, il n'existe aucune organisation reconnue ou structurée pour la défense des droits LGBT dans le pays. Pourtant, juste après la révolution, Ibrahim, comme beaucoup d'autres homosexuels, ont tenté de revendiquer plus de droits.
Nous avions de l'espoir, mais nous savions que rien n'allait se passer, parce que les gays ont peur de réclamer leurs droits. Parce que si vous réclamez des droits pour les homosexuels, cela signifie que vous êtes homo. Et si vous êtes homo, c'est honteux.
Ibrahim a 30 ans. Dans son petit appartement du quartier de Hamdine, il se sent courageux de témoigner à notre micro. Depuis l'adolescence, sa vie tout entière est construite autour du mensonge et de la peur.
J'ai deux personnalités. Je dois m'exprimer comme un hétérosexuel, avec ma famille ou au travail. Et je m'exprime normalement avec les gens qui savent que je suis gay. Je ne peux rien dire, je dois me cacher. Évidemment, je ne peux pas changer, je ne peux pas devenir hétérosexuel.
Aucune loi ne condamne précisément l'homosexualité en Égypte. D'ailleurs, le mot n'existe pas en arabe égyptien. Mais d'autres lois sont utilisées pour punir une pratique considérée comme immorale ou satanique. Scott Long, le fondateur du programme pour la défense des droits LGBT pour Human Rights Watch, recense le nombre d'agressions et d'arrestations en Égypte. Il est formel, la répression des homosexuels n'a pas cessé.
Paradoxalement, nous avons vu très peu de persécutions publiques contre les homosexuels pendant l'année où les frères musulmans étaient au pouvoir, car ils n'avaient pas besoin de cela. C'est un parti religieux, tout le monde le savait. Mais depuis que Sisi a pris le pouvoir, il y a eu une forte augmentation de la répression. La plupart du temps, les arrestations ont lieu chez les gens et visent les hommes efféminés ou les transgenres. Je crois que c'est une façon pour la police de rétablir leur crédibilité dans le pays. Parce que personne n'aime la police après la Révolution. C'est l'institution la plus détestée de l'ancien régime. Et aujourd'hui, cela leur permet de dire « nous faisons notre travail, nous défendons la morale dans notre pays ». Ils envoient un message à l'opinion « vous avez besoin de nous ».
Il y a quelques mois, une descente de police dans une soirée privée a fait grand bruit. 70 personnes ont été arrêtées. Ibrahim était invité à cette fête. Par chance, il ne s'y est pas rendu. Mais depuis, il redouble de vigilance et ne croit plus au changement de la société égyptienne.
Dans 10 ans, ce sera pareil. Dans 20 ans, ce sera toujours pareil. Je ne pourrai pas m'exprimer tel que je suis tant que les gens ne pourront pas comprendre. C'est le problème. Si les gens ne peuvent pas comprendre ce que cela signifie d'être gay, s'ils sont trop stricts, trop traditionnels, s'ils ne sont pas ouverts d'esprit, s'ils voient cela comme quelque chose de scandaleux, alors rien ne changera. Cela va prendre beaucoup de temps pour que les gens évoluent.
La vive répression qui étouffe le pays où la liberté d'opinion et le droit à la différence ne sont pas respectés risque de plonger un peu plus la défense des droits des homosexuels, déjà quasi inexistante, dans l'oubli.
Les difficultés de la communauté gay en Égypte, un reportage de l'un de nos correspondants, François Hume.
Orient Hebdo sur RFI. Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Gaza fait évidemment la une des journaux arabes, Alexandre. Des journaux qui, au-delà du conflit sur le terrain, s'interrogent sur les causes de cette escalade.
Oui, et même si tous les journaux arabes condamnent les opérations militaires israéliennes contre Gaza, plusieurs éditorialistes se posent la question « Pourquoi maintenant ?» et ils reprennent les événements à partir de l'accord entre les factions palestiniennes rivales, le Fatah et le Hamas, pour former un gouvernement d'union nationale, et un accord qui avait été condamné par Israël, et puis l'enlèvement des trois jeunes Israéliens des bras et leur meurtre. Un crime qu'Israël a imputé au Hamas, mais sur lesquels les analyses arabes sont plus dubitatifs. Et puis il y a les raids israéliens sur Gaza et le tir de roquettes sur Israël qui allait crescendo pour aboutir à l'escalade actuelle. Alors certains éditorialistes arrivent à la conclusion classique du complot israélien, tandis que d'autres y voient un scénario visant à affaiblir encore plus un monde arabe déchiré par les conflits internes et menacé par l'extrémisme musulman.
Alors cette drôle de guerre entre Israël et la bande de Gaza fait également la première page de la presse israélienne, Michel Paul.
Une caricature dans un quotidien israélien, Benjamin Netanyahou ordonne à ses généraux « Je veux un résultat de 7-1 ». Alors bien sûr, Eric, l'opération bordure de protection sous tous ses angles remplit les pages des journaux en Israël depuis le début de l'offensive. Mariv souligne ce week-end que l'on prépare le terrain, en d'autres termes, une opération terrestre. Pour le quotidien, c'est pour bientôt. Pour preuve, le journal indique que des tracts ont été distribués aux habitants de Gaza, proche de la frontière, avec ces mots « quittez les lieux ». Haaretz ce titre sur les efforts déployés par les États-Unis pour tenter d'éviter une entrée terrestre des forces armées israéliennes. Tous les quotidiens soulignent la petite phrase du Premier ministre israélien « un cessez-le-feu n'est pas envisagé à l'heure actuelle ». Tout le pays est un front, souligne le quotidien Israël Hayom. Et puis, Yedioth Ahronot se penche sur le système antimissile Dôme de fer qui a changé la donne en interceptant la majorité des roquettes qui risquaient de s'abattre sur des zones peuplées.
Et cette situation conflictuelle suscite de très nombreux commentaires, Michel.
Oui, alors dans l'ensemble, les éditorialistes et les commentateurs apportent leur soutien à ce stade à l'opération menée par Israël. Une éditorialiste affirme qu'elle ne voudrait pas prendre la place de Netanyahou seule face à la situation. Et Eric, on trouve de nombreuses voix pour s'opposer à une opération terrestre qui risque d'être particulièrement coûteuse en vies humaines. On parle du dilemme de cette offensive et puis il y a aussi ceux qui espèrent que le règlement de ce nouvel épisode conflictuel des relations entre Israël et le Hamas permettra d'ouvrir en fin de compte la voie à une reprise du dialogue israélo-palestinien. Un éditorialiste dans le quotidien de Haaretz estime que la paix est un objectif difficile à obtenir. Il faudra au mieux se contenter d'un compromis. Et dans Mariv, un commentateur pose la question que se posent tous les Israéliens. Comment sortir de cette nouvelle crise ?
Alexandre Bouchanti, l'État islamique en Irak et au Levant, ou Daesh en arabe, continue à préoccuper la plupart des journaux arabes.
Oui, et des journaux qui font parfois le lien avec ce qui se passe à Gaza. Mais l'éditorialiste Ibtihal al-Khatib estime dans Al-Quds al-Arabi qu'il s'agit en fait d'un retour de bâton. Alors pour elle, Daesh est la vipère que certains régimes arabes, notamment du Golfe, ont couvé en leur sein. Et elle accuse le Qatar qui aurait favorisé l'État islamique pour servir ses rêves de grandeur politique sur le terrain après avoir occupé l'espace médiatique avec la chaîne Al Jazeera. Elle accuse aussi l'Arabie Saoudite d'avoir favorisé Daesh pour contrer ce qu'elle percevait comme une menace chiite et iranienne, de régimes qui, selon elle, pourraient être les suivants sur la liste Daesh dont les aspirations ne vont pas s'arrêter à la Syrie et à l'Irak.
Alexandre, la baisse du prix du pétrole est un sujet de préoccupation, cette fois pour la presse du Golfe, dont toute l'économie est basée sur l'or noir.
Tout à fait, et la question que se posent plusieurs spécialistes est pourquoi le pétrole continue-t-il de baisser alors que la crise au Proche-Orient devrait le faire grimper ? Alors certains éditorialistes pensent que le pétrole du Proche-Orient intéresse de moins en moins les Américains qui, grâce à leurs énormes réserves de gaz de schiste, pourront bientôt s'en passer. Ils notent aussi que Daesh, tout comme les islamistes de Libye, visent à occuper les régions pétrolières. Et puis le journal Al-Sharq al-Awsat indique que Daesh est en train de brader le pétrole des puits en sa possession au prix de 17 dollars le baril, alors que le prix international est de 107 dollars.
Un sondage de popularité des dirigeants israéliens, Michel Paul.
Ce qui est intéressant, Eric, c'est que tous les leaders israéliens que l'on retrouve dans ce sondage sont dans le rouge, à commencer par Netanyahou avec 50% d'impopularité, 40% seulement de soutien. Avigdor Lieberman est à 56% d'impopularité. Et en fait, le seul qui soit à la hausse est le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, avec 57% de popularité.
Et puis, une conférence de la paix organisée cette semaine par le quotidien Haaretz, c'est quand même curieux, non, Michel ?
Oui, avec un supplément spécial du quotidien Haaretz à cette occasion. Un supplément, quelle ironie, consacré à la paix. Des articles très intéressants sur 20 ans de dialogue entre Israéliens et Palestiniens à lire, mais peut-être plus tard, quand le calme sera revenu.
En effet. Les feuilletons télévisés du Ramadan, Alexandre, occupent les pages culture de la presse arabe. Presse arabe qui s'intéresse notamment aux séries de dessins animés.
Oui, cette année, ce sont les stars du cinéma égyptien qui ont prêté leur voix aux héros des séries de dessins animés qui cartonnent. Alors, des séries qui dégrivent sarcastiquement les problèmes de la société arabe en pleine crise identitaire.
Et pour conclure cette revue de la presse régionale, Michel Paul, votre photo du jour.
Les photos de Gaza sous les bombardements et les impacts des roquettes palestiniennes en Israël. Beaucoup de feu et beaucoup de fumée.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr à la rubrique émission ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.